pense que le choix a été difficile pour les gagnants.
Oui.
100$ de fromagerie Victoria et de boutique au 7e ciel pour le gars et la fille. Donc, qui est la grande gagnante pour ce qui est de la fille?
Je me suis... pour la fille, je me suis vraiment divertie avec son message. Je trouvais que c'était super honnête, transparent, gentil, doux. Puis c'est quelqu'un qui connaissait beaucoup l'émission.
Lola.
Félicitations.
Parfait.
J'entends tout le temps la chanson quand je dis son prénom.
Et pour ce qui est du gars?
Ben ça, j'ai été déchirée parce que j'ai beaucoup d'humour dans la vie. Fait que le gars qui a répété sec, je suis sûre que c'était pour faire rire, tu comprends? J'ai pas envie de soupçonner qu'une personne est vraiment problématique et malaisante. Fait que je trouvais que pour l'humour, c'était un beau neuf.
Ouais.
Mais il y a quelqu'un qui l'a dépassé parce qu'il y a beaucoup de références aussi à l'émission. Puis j'aime ça le monde qui sont avec nous. Puis c'était très intelligent de la part de Sébastien.
Saint-Bastien. Donc Lola
pas
et Saint-Bastien, Sébastien.
Mais Sébastien.
Lola et Sébastien. All right. Donc,
félicitations
aux gagnants. Puis on va communiquer avec vous dans les prochaines minutes, les prochaines heures, les amis.
Puis pour tous ceux qui ont du poivre de Cayenne, si vous voulez m'en offrir avant que je finisse en onde, ça va être vraiment le fun. Merci.
Des répulsifs à ours.
Oui.
Ben oui. Hey, les jeunes médecins se posent énormément de questions actuellement, surtout ceux qui n'ont pas encore fini leur cursus là, pour être docteur au grand complet. On ne sait pas trop qu'est-ce que Québec va prendre comme décision, à savoir est-ce qu'on va leur interdire d'aller travailler au privé? Est-ce qu'on va les interdire, après leur cursus, d'aller vers les États-Unis ou encore d'aller travailler dans d'autres provinces? Puis le Parti conservateur du Québec appelle les gouvernements à s'attaquer aux véritables problèmes du système de santé plutôt que d'interdire aux jeunes médecins de devenir des médecins non participants à la RAMQ. On a le plaisir de jaser avec un des membres du Parti conservateur. C'est le docteur Elayoubi. Monsieur Elayoubi, bonjour.
Bonjour à vous deux.
Merci d'être avec nous sur l'heure du midi. Qu'entendez-vous parmi les gens de votre profession? Là, qu'est-ce qui stresse nos jeunes médecins? Est-ce qu'ils sont en accord avec les décisions que le gouvernement doit prendre ou la plupart d'entre eux sont mécontents?
Non, la grande majorité sont mécontents. Et c'est pour ça qu'on réagit au nom du Parti conservateur du Québec, là, juste pour dire, moi, je suis porte-parole en matière de santé du Parti conservateur du Québec. Et on a fait une conférence, moi et Éric Duhaime, hier, puis M. Duhaime est tout à fait d'accord avec la lignée qu'on prend à l'heure actuelle. C'est-à-dire, moi, le projet de loi de Christian Dubé, je trouve que c'est un projet, je l'appelle le projet de loi brutal. C'est un projet très brutal, avec beaucoup de brutalité à l'intérieur. Et... faut bien mettre en perspective les choses, là. Je vais vous le décrire en 30 secondes, mais il n'y a rien qui existe d'aussi agressif et brutal à l'intérieur du G7, du G8. Il faut toujours se poser la question, lorsqu'on a besoin d'être liberticide à ce point-là, et les autres ne sont pas obligés de l'être, et ils sont capables d'avoir un partenariat privé-public très intéressant pour améliorer l'accessibilité des patients. On parle des modèles d'Asie développée, on parle des modèles d'Europe, entre autres l'Allemagne, la Suisse, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède. Comment se fait-il que ces pays-là ne sont pas obligés de légiférer de façon aussi liberticide pour assurer des soins aux patients? Maintenant, M. Dubé, ce qu'il veut faire à l'heure actuelle, c'est qu'il veut dire, et il ouvre une porte, là. Il faut s'entendre, à l'intérieur du Canada et à l'intérieur de l'Amérique du Nord et de l'Occident, le Québec représente une des légiférations, sinon la légifération, où est-ce que les soins de santé et la médecine est la plus étatisée. Je vous donne juste un exemple comme ça. Un jeune médecin, on ne parle même pas de ce projet de loi-là, ne peut pas terminer sa pratique s'il est engagé à l'Enfant Jésus, s'il n'a pas l'autorisation du gouvernement. Disons que l'Enfant Jésus veut l'avoir pour pratiquer soit à l'urgence, peu importe sur quel département, pneumologie, cardiologie, il se doit d'avoir la signature du gouvernement pour pouvoir y pratiquer. Sinon, c'est ce qu'on appelle les PREM, les programmes régionaux d'effectifs médicaux, sinon il est amputé de 30% de son salaire. Ça existe déjà, cet étatisme au sein du Québec. Maintenant, M. Dubé veut en rajouter une couche supplémentaire. Il veut dire, regardez, on veut éviter l'exode des jeunes médecins au privé. Rappelons qu'il y a 800 médecins qui travaillent au privé sur 24 000 médecins au Québec. On parle de quelque chose entre 3,5 et 3,7%. C'est marginal. Et soudainement, M. Dubé, qui avait fait l'apologie un peu du privé en santé, à la campagne 2022, lorsqu'il nous affrontait, le Parti conservateur du Québec, il a repris certaines de nos idées. Maintenant, il fait un virage à 180 degrés, tout comme François Legault l'a fait sur les hydrocarbures. Ils font un virage à 180 degrés et ils disent maintenant, non, il faut freiner l'exode au privé quand il n'y a pas vraiment, à 3,5%, il n'y a pas d'exode là, si massif que ça. Donc, ils veulent interdire les jeunes médecins finissants à pouvoir aller pratiquer, se désaffilier de la RAMQ et aller pratiquer au réseau privé. C'est très liberticide comme façon de fonctionner. Et le problème fondamental à travers tout ça, c'est que il y a un sondage qui a été fait pour, au sein de la FMEQ, la Fédération des médecins étudiants du Québec. 57% envisagent aller faire leur formation, envisageraient aller faire leur formation ailleurs, soit au Canada, soit aux États-Unis, soit ailleurs, en raison de cette contrainte-là.
Ouais, ce qui m'amène à la question, est-ce que le gouvernement du Québec est le gouvernement le plus généreux à travers le Canada pour ce qui est de la formation des médecins? Parce que quand on jase avec les gens là, qui sont sur le plancher des vaches, là, ils ont l'impression que, bon, ben nous autres, on paye pour la formation des médecins, on paye des impôts, donc la moindre des choses, c'est que les médecins travaillent au Québec et n'aient pas à s'exporter constamment, sinon c'est de l'argent perdu. Ils voient ça de cette façon-là. Moi, je trouve ça particulier parce que si vous le faites avec les médecins, vous le fassiez aussi avec les autres professions. Mais est-ce que le gouvernement du Québec est le gouvernement le plus généreux pour ce qui est de la formation de nos médecins?
Je pense que je n'utiliserai pas le terme généreux parce que c'est l'argent des contribuables. C'est moi, c'est vous, c'est pas le gouvernement. Donc moi, dans ma tête, un gouvernement n'est jamais généreux. Là. C'est celui qui décide de payer de sa poche sans être contraint de le faire. Mais je comprends très bien votre point. C'est-à-dire, la réponse est oui. Les formations universitaires, c'est pas juste la médecine, hein, c'est toutes les formations universitaires. Au Québec, on est très taxé, on est très imposé, mais en revanche, dans certains secteurs, on n'a pas de service, ça c'est une réalité. Cependant, au niveau des frais de scolarité universitaire, c'est vrai qu'on est les moins chers en Amérique du Nord, OK? Mais ça, c'est pas seulement pour les médecins. Si on veut revoir, d'une part, le financement, OK, de l'État par rapport aux frais de scolarité. Ben, faut pas juste le faire pour les médecins. Il faut le faire également pour les infirmières, oui. Pour les inhalothérapeutes. Il faut le faire pour les ingénieurs. Il faut le faire pour les avocats. Il faut le faire pour les dentistes. Il faut le faire pour beaucoup de gens. Et il faut également le faire pour des gens qui ont un doctorat dans un domaine ou est-ce qu'ils travaillent pas dans leur domaine. L'autre point, lorsque les gens parlent du fameux contrat social. Bon, le contrat social, je comprends sur le plan philosophique qu'est-ce que ça veut dire. Mais il faut toujours voir, ça signe où exactement cette chose-là. De mon côté, je n'aime pas cette expression, et pas juste pour les médecins, là, pour tout le monde. C'est-à-dire, à partir du moment où vous faites une formation, lorsque vous voulez retenir les individus, il y a toujours une question de gens qui s'en vont de la province, de gens qui viennent dans la province, OK? Ça, faut regarder. Comment ça se fait qu'au Québec, on est déficitaire par rapport au nombre de médecins qui partent et au nombre de médecins qui reviennent? Ben, il y a peut-être une question à se poser sur les conditions de travail, il y a peut-être une question à se poser également sur la qualité du réseau global.
Oui, exact.
Ça, c'est comme l'éléphant dans la pièce. Moi, j'aime mieux élever vers le haut, amener des solutions et des propositions qui font en sorte qu'on est attrayant et qui font en sorte que la planète veut venir vers nous, plutôt de faire en sorte que nos jeunes médecins, là on parle des médecins aujourd'hui, mais ça s'applique aux infirmières, ouais. Ça s'applique à bien d'autres professions également, plutôt que de dire on va les restreindre. Et bonne chance au ministre Dubé de passer le test des tribunaux ouais. Pour retenir les gens ici et de dire... Mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'ils font là? Ça veut dire si un médecin s'en va pratiquer aux États-Unis, c'est quoi? Il va envoyer Interpol? Il va faire quoi?
Ouais. Ben, moi, j'adore la position que vous avez au Parti conservateur du Québec concernant le projet de loi 83. Je pense que la plupart des gens qui regardent un peu comment le réseau de la santé va est un peu en désaccord avec ce que Christian Dubé veut mettre en place. Mais Doc et Layoubi, qu'est-ce qui fait en sorte que le Collège des médecins s'immisce en politique plutôt que de vérifier si le patient est toujours en sécurité? À mes yeux, à moi, le Collège des médecins n'était pas là pour protéger les médecins. À mes yeux, à moi, le Collège des médecins était là pour protéger le public. Et là, on se rend compte que des fois, il est plus du bord du gouvernement, un petit peu plus du bord des médecins versus le public. Le Collège des médecins, est-ce qu'il fait trop de politique selon vous?
Mais écoutez, ici, il est clairement pas du bord des médecins parce que là, les deux fédérations de médecins, la FMOQ et la FMSQ, sont contre le projet du ministre Dubé, et le Collège des médecins suggère d'aller encore plus loin ouais. Et d'interdire presque graduellement là, d'abolir le privé en médecine.
C'est ça. Maintenant, le Collège des médecins veut abolir le privé en médecine, alors que pour quelqu'un qui a des difficultés en santé, ben lui, c'est pas mal plus avantageux, puis il va passer pas mal plus rapidement avec le privé. Je veux dire, ça devrait faire l'affaire du Collège des médecins, parce que le patient, lui, il est soigné en priorité.
Moi et vous, en ce moment, on a la même vision des choses. Repartons de la base. D'où vient le privé en médecine au Québec, ultimement? Là, il y a 100 ans, il y a 60, 70 ans avant la Révolution tranquille, c'était uniquement du privé. Après, avec la Révolution tranquille, avec Jean Lesage, l'arrivée de l'assurance maladie, ce qui était une bonne chose, là, d'amener un système public, on était pas mal dans le tout à l'État, le tout au public. Maintenant, on s'est rendu compte que plus la population vieillit, plus c'est difficile d'avoir un monopole étatique pour assurer l'accessibilité aux soins de santé. Et en 2005, il y a eu, et ça c'est vraiment très 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 important pour les auditeurs, là, c'est le jugement 2005 de la Cour suprême, et c'est ça qui m'interpelle par rapport à la position du collège. Je me pose la question, est-ce qu'ils ont vraiment regardé le jugement Shaoli? En 2005, il y a un arrêt de la Cour suprême qui dit parce qu'il y avait trop de délais d'attente, les délais d'attente étaient déraisonnables au Québec et l'État avait un monopole de soins. La Cour suprême a tranché en disant « Vous ne pouvez pas interdire les patients d'aller se chercher des soins au privé et de médecins, infirmières, inhalo, physio, peu importe, de fournir des soins au privé lorsque l'État n'est pas capable de fournir les soins dans des délais raisonnables. Donc, lorsque les délais sont déraisonnables, ce qui est le cas actuellement, ce qui était le cas en 2005, le patient, on ne peut pas le menotter, il a le droit soit de payer, soit de s'assurer pour avoir un soin. Et ça, c'est fondamental. Et c'est de cette façon-là que les pays les plus performants au monde fonctionnent. C'est-à-dire, vous avez une assurance de base de l'État qui vous assure de ne jamais être laissé dans la rue, vous allez à l'urgence, on ne peut pas vous mettre dehors du tout, mais vous avez également la possibilité d'aller dans le réseau privé si vous considérez que vous voulez investir dans votre santé plus rapidement. Et vous avez également ce qu'on propose au Parti conservateur du Québec, ce qui est un modèle qui est hybride entre celui qui existe à l'heure actuelle au Québec, c'est-à-dire soit la carte de crédit, soit le monopole public. C'est un modèle où est-ce que lorsque les délais sont jugés déraisonnables, l'État a l'obligation de vous rembourser au moins une partie et idéalement la totalité de votre facture.
Mais
si vous allez
ça,
dans le réseau privé.
Personne ne sait ça, ou presque.
Les geeks de politique savent ça, sauf que sur la place publique, on a l'impression que ce qu'on propose, c'est la carte de crédit, c'est pas du tout ça. Ce qu'on propose, là, si les gens qui sont intéressés puis qui aiment la dynamique là, des modèles de santé comparatifs internationaux, je sais qu'on n'est pas très nombreux, mais merci de me donner l'opportunité d'en parler. Les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suède sont des modèles qui sont très intéressants là-dessus. Et le but, c'est que tout le monde soit assuré, qu'il y ait une obligation d'assurance. Et on veut l'universalité du système de santé, mais on veut l'universalité version social-démocrate, pas version soviétique. La version, lorsqu'on a un monopole total public, on sombre malheureusement dans la version soviétique, c'est-à-dire tout le monde attend très, très, très longtemps au nom d'une égalité absolue qui n'existe pas en réalité. Nous, ce qu'on propose, c'est un modèle qui va amener les Québécois, les Québécoises, à avoir des soins plus rapidement. Et on ne veut pas uniquement amener du privé en santé. C'est-à-dire, le privé en santé, on sépare le payeur de soins du fournisseur de soins. Ça, c'est fondamental. Et on veut également augmenter les effectifs parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas suffisamment d'infirmières, pas suffisamment de super infirmières, on en a deux fois moins que l'Ontario, et on veut, par rapport aux médecins, on en a à peu près là, 20 % de moins que les pays les plus performants. Si on faisait juste monter de 7 à 8 % on aurait une offre de service qui est plus intéressante, disons.
Les médecins au Québec, c'est des travailleurs autonomes, c'est pas des travailleurs de l'État. Vous êtes payé à l'acte. Donc, à chaque fois qu'un patient arrive avec sa carte d'assurance maladie, on passe la carte d'assurance maladie, puis après ça, le médecin, il facture. C'est quoi la différence entre facturer avec la carte d'assurance maladie au public versus la carte d'assurance maladie au privé? Bon, on peut pas le faire nécessairement au privé, là, mais le montant, est-ce qu'il est à peu près le même? Parce que l'acte, je veux dire, en soi, c'est de rencontrer un médecin qui est un travailleur autonome, qu'il soit dans le privé ou dans le public?
Excellente question. Ça, c'est l'acte comme tel, c'est pour ça qu'il y a en ce moment, puis ça, il faut quand même le donner, là, on critique beaucoup le ministre Barrette, l'ancien ministre Barrette, Gaétan Barrette, ancien ministre de la Santé, mais il avait quand même débuté un travail à l'époque pour déterminer qu'est-ce que ça coûte un acte médical. Parce qu'un acte médical, c'est pas juste combien tu payes le médecin, puis non, c'est combien tu payes l'infirmière à côté. Faut que tu fasses un amortissement de l'hypothèque sur le building, le chauffage, le concierge à payer, etc., etc., le stationnement, les taxes municipales. Ça prend des modèles économétriques qui sont assez développés. Maintenant, on les connaît, ces tarifs-là, par rapport à l'État. La chose est, à partir du moment où on les connaît par rapport au réseau public, c'est là que c'est intéressant de comparer au réseau privé, incluant l'amortissement de leurs buildings, de leurs hypothèques, etc. Exact. Et c'est là que l'État peut être en mesure de dire, nous, dans le public, ça coûte X. Si dans le privé, vous nous chargez Y, ben, l'État n'a pas la capacité de payer ce Y-là. Nous, ça nous coûte moins cher. Par contre, et ça, c'est dans notre programme au Parti conservateur, toute clinique privée, tout hôpital privé qui existerait, qui sont en mesure de nous charger moins cher que le coût qui est calculé par nos économistes au sein du réseau public, automatiquement, le patient se serait remboursé au privé. Vous voyez le genre de modèle de concurrence qu'on veut amener qui existe à peu près. Et c'est pas qu'on est des génies, là. Ben non, on s'inspire de modèles qui existent un peu partout sur la planète. C'est juste qu'on est en retard par rapport à ce type de modèle-là ici.
Mais si la clinique privée, c'est le plus bas soumissionnaire, on est supposé d'y aller avec. Le Québec a été bâti sur le plus bas soumissionnaire. On devrait continuer avec les cliniques privées si tel est le cas.
Tout à fait d'accord, en autant qu'il respecte, la qualité de soins que l'État désire. Là. Mais ça, c'est encadré par des ordres professionnels, c'est encadré, c'est-à-dire si vous êtes dans une clinique privée, vous ne pouvez pas fournir un service de moins grande qualité que le public, il faut que vous respectiez des critères. Mais oui, absolument, le plus bas soumissionnaire. Et c'est pour ça que, juste l'exemple de l'hôpital Saint-Goran à Stockholm, en Suède, ils se sont rendus compte que le gouvernement suédois, ils ont dit « OK, parfait, on va faire un genre de projet pilote, on va donner… » à Capio, qui est une firme internationale de gestion privée, la gestion d'un hôpital. Capio était capable, maintenant c'est Ramsay là, qui ont pris la relève, mais ça c'est des firmes de gestion d'hôpitaux. Eux, ils ont pris l'hôpital en question à Stockholm. Ils sont capables d'avoir 10 % de profit et de faire sauver de l'argent. Malgré un profit, ils sont capables de faire sauver 10 % à l'État parce qu'ils sont le plus bas soumissionnaire et ils ont des délais d'attente moins élevés que dans les hôpitaux publics. Donc ça, c'est ça qui est l'intérêt, parce que le patient, monsieur, madame, tout le monde, il s'en fout complètement de savoir qui est le gestionnaire de l'hôpital. Est-ce qu'il est engagé par l'État? Est-ce qu'il est privé? Est-ce qu'il est public? Lui, ce qu'il veut, il se dit, moi, je paie des impôts, je paie des taxes, je veux en avoir pour mon argent. Qui est le gestionnaire de l'hôpital? C'est le dernier de ses soucis.
Mais docteur Elayoubi, quand on regarde actuellement de quelle façon sont gérés nos hôpitaux, là, moi j'ai eu la chance, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais de faire quelques hôpitaux à Québec et de voir à quel point c'est désuet un peu partout dans les passages, à l'intérieur des chambres, des murs qui devraient être repeinturés depuis au moins 5 ans.
Pas juste repeinturés, rendu là en plus, hein?
C'est détruit.
C'est délabré.
Tu sais, je trouve ça extrêmement triste, puis je me dis, mais tout l'argent qu'on envoie au réseau de la santé, là, c'est quand même 50% de nos impôts qu'on envoie au Québec, qui s'en vont 50% et plus maintenant, qui s'en vont au système de santé. Puis on n'a pas l'impression qu'on a un retour sur investissement. Puis quand on va dans une clinique privée, puis là, ben, on change de profession. Tu sais, on va aller avec les dentistes. C'est des cliniques privées. Je veux dire, tout est propre, tout est à la fine pointe de la technologie. Ça fonctionne par rendez-vous. On a rarement du retard dans nos rendez-vous. Tu te dis, mais attends un peu, là, je serais aussi bête de donner mon argent au privé parce qu'ils ont l'air d'être capables de s'en occuper mieux que moi.
C'est un sujet très large, là. Les hôpitaux comme tels, il faut comprendre que ça fait partie là, du programme québécois des infrastructures, là, le PQI. Si je faisais juste vous montrer comment on a des rénovations à faire par rapport au PQI et comment on n'a pas le PIB et même le PIB par habitant pour rénover l'ensemble de ces infrastructures, je vous déprimerai un peu, mais je veux pas vous déprimer. Là. Je veux pas être un agent de malheur là, pour vous aujourd'hui. Là. Je veux que vous finissiez votre journée sur, sur une bonne note. La qualité des soins est quand même bonne. Et il faut, faut se poser la question ici, puis le point fondamental que vous amenez, c'est-à-dire, est-ce que l'État peut continuer à être un monopole? On se rend compte que non. L'arrivée du privé en médecine au Québec, c'est qu'il y avait une place à prendre, c'est qu'il y avait un espace vide. La nature a horreur de l'espace vide. Si l'État était en mesure de payer, avec la richesse qu'on a au Québec, des soins de santé à tout le monde, sans imposer de façon extrême tout le monde, et faire en sorte qu'il n'y a pas de délai d'attente parce qu'on a tellement d'effectifs et on a un seul assureur, on a un seul payeur, on a un seul fournisseur de soins, c'est assez utopique. Les pays qui sont capables de faire ça, on parle pas pratiquement de monarchie pétrolière de trillions de dollars. Là. On n'est pas là du tout ici au Québec. On a une population qui vieillit, on a des épisodes de soins qui sont extrêmes, qui deviennent de plus en plus lourds et on a besoin de plus en plus d'effectifs. Donc, il faut revoir le modèle complètement. Et il faut se poser la question, est-ce que le payeur unique est, on va pouvoir continuer?
Mais,
et si on veut continuer avec un payeur unique, il va falloir se poser la question, les couches bureaucratiques, 7 pages PDF, l'organigramme du ministère de la Santé, il faut couper à quelque part dans la bureaucratie beaucoup trop de gestionnaires par rapport au ratio de travailleurs sur le terrain tant qu'à moi.
On entend toujours ça, fait qu'on comprend que clairement, peu importe le parti ou les experts en santé, ce qui est exposé, c'est ça. Là. T'sais, les sommes qui sont envoyées au ministère de la Santé, ben, c'est beaucoup dans la bureaucratie. Le hic étant, récemment, on a parlé avec les protecteurs des patients, puis eux, dans le discours actuel, si la réforme de M. Dubé ne fonctionne pas, on entendait des gens qui y travaillaient depuis une vingtaine d'années qui étaient complètement dans le désespoir puis c'était terminé pour eux. Là. C'est la dernière réforme qu'on impose qui, si elle ne fonctionne pas, scrape en fait encore une fois le système de santé. On entend où on doit aller, mais on s'y rend jamais. Il y a des gens qui n'ont plus espoir envers ce qui est mis en place, des gens qui sont dans les secteurs d'activité depuis des années. Tu sais, au final, on fait quoi avec ça?
J'entends bien ce que vous me dites. Le problème, c'est que tout le monde a essayé de réformer ce système de l'intérieur en considérant que l'État se doit d'être au centre, le payeur, l'assureur, le fournisseur de soins et le gestionnaire. Il est là le paradigme qu'il faut abattre, ultimement. Et le travail a déjà été fait ailleurs, partout dans le monde. Le modèle qu'on apporte, c'est un modèle de libéralisation du réseau de la santé qui va faire en sorte que, juste là, je vous donne un exemple très rapide, des salles d'opération qui ferment à 2h30 l'après-midi parce que si la prochaine chirurgie continue, elle risque de se terminer à 5h15 au lieu de se terminer à 4h30. Dans le privé, ça n'existe pas, ce genre de choses-là. Pourquoi? Parce qu'on veut, une efficacité, on veut une efficience. Maintenant, il faut utiliser le privé où est-ce qu'il est efficace avec des plateaux techniques qui sont très efficients. Exemple, vous avez un exemple proche de chez vous à Québec, la ZICMD. Ils sont capables, pourquoi dans la ZICMD, payés par l'État, là, en passant. C'est une bonne chose que M. Dubé a amené. Ils sont capables de faire 2 fois plus de chirurgie de la cataracte par unité de temps. C'est-à-dire, à la fin de la journée, ils en ont fait 2 fois plus pour à peu près le même prix unitaire. Ben pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas soumis aux conventions tellement rigides du système public. Lorsque vous sortez de l'organigramme, les travailleurs, mais vous les rémunérez quand même avec, vous assurez les patients d'avoir la rémunération de l'État pour avoir le soin ou de pouvoir se procurer un assureur privé. À partir de ce moment-là, vous augmentez l'offre de services globale. C'est comme ça que les modèles les plus performants fonctionnent. Et c'est ça l'avenir, c'est vers ça que le Québec doit aller.
Okay.
Clairement, sinon on s'en sort pas.
Docteur Elahubi, j'ai le goût de me projeter dans le futur, dans quelques années, on a un gouvernement conservateur au Québec, puis on a le ministre Elahubi qui est là, qui est le ministre de la Santé. Est-ce que sous votre gouverne, on aurait droit à des hôpitaux publics qui sont gérés par le privé? Et si on les met en compétition, est-ce que ce serait un meilleur résultat, ces hôpitaux-là qui sont gérés par le privé? privé, mais c'est des hôpitaux publics. En fait, pour le patient, ça ne changera rien. C'est juste qu'on va donner des ordres aux entreprises privées, c'est-à-dire vous devez améliorer telle affaire. Sinon, dans 5 ans, vous perdez le contrat. Puis s'ils réussissent à remplir leur objectif, s'ils sont premiers, exemple, dans leur région, bien, on bonifie les primes des hauts gestionnaires de cette entreprise privée-là. Là.
Ben, je comprends que vous avez lu notre programme.
Ben oui.
Exactement. Ben c'est agréable de discuter avec quelqu'un qui a lu le programme. Oui, absolument. La réponse, c'est clairement. Clairement, oui. Pourquoi? La concurrence est la clé de tout, OK? Si moi, j'arrête d'avoir de la concurrence dans ma vie, je deviendrai médiocre. La même chose pour vous. Pourquoi? Vous êtes capable de performer, vous êtes capable de vous lever, vous essayez de faire des recherches de l'actualité, vous me parlez aujourd'hui, c'est parce qu'il y a d'autres stations autour de vous qui vous poussent. C'est comme ça. Et donc, l'être humain fonctionne avec des incitatifs, des contraintes. Étant plutôt libéral classique sur la pensée philosophique, j'aime mieux les incitatifs que les contraintes. Parfois, les contraintes sont nécessaires également. Mais oui, la réponse est clairement oui à votre question, c'est-à-dire il y aurait des appels d'offres internationales avec les compagnies les plus performantes sur la planète afin d'avoir très rapidement dans les premières semaines, le premier mois d'un mandat, certains hôpitaux qui seraient confiés à ces gestionnaires-là. Et on mesure l'efficacité et l'efficience des soins qu'ils sont capables d'amener aux patients. Et s'ils échouent, ils sont out automatiquement. S'ils n'échouent pas et si on se rend compte qu'on peut bénéficier de leurs bonnes pratiques, ce qui est le cas à l'échelle internationale, eh bien, on l'encourage. Et le système, lui-même le système public, peut s'inspirer de ça. Et ultimement, on peut développer des start-up québécoises qui vont s'inspirer de ces grandes compagnies-là, qui vont devenir des grands gestionnaires d'hôpitaux et qui peuvent même s'exporter à l'échelle internationale. Vous comprenez? On est dans de la politique fiction, on essaie de voir grand un peu, mais ça, l'idée de la concurrence amène l'excellence, amène la performance et ultimement, c'est qui est gagnant en dessous? Oui, il y a des gens riches qui sont gagnants, peut-être, mais le consommateur dans le réseau, OK? Et quand on parle du consommateur, ben le patient, c'est un consommateur de soins. Il consomme des soins. C'est un patient avec toute sa dignité. Et on veut que non seulement qu'il ait accès à de bons soins. Au Québec, on a de bons soins, ça c'est clair, mais on veut qu'il ait accès dans des limites, dans des délais raisonnables, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle à certains égards. Et il faut s'inspirer des meilleurs modèles. Ce que vous avez décrit juste avant, c'est une façon là, d'amener cette concurrence-là pour le bénéfice du patient.
Docteur Elahoubi, j'ai plus de 4 décennies dans le corps, puis depuis que je suis jeune, on me parle du fameux modèle québécois. Bien, un modèle, à mes yeux, à moi, on tente de le répliquer ailleurs. Là. Si notre père est un modèle, on essaie d'être un bon modèle pour nos enfants. Bien, ce modèle québécois-là, dans lequel on est ancré depuis des décennies, n'a jamais été repris ailleurs. Faudrait peut-être comprendre à un moment donné que c'est peut-être pas le meilleur modèle, le modèle québécois en santé. Là.
Tout à fait. Moi, si j'ai 7-8 accidents par année avec mon automobile, puis les gens que je côtoie de ma famille, de mes amis, en ont un par 10 ans, ben, je vais leur poser la question quel pneu vous chaussez, quelle auto vous avez, à quelle vitesse vous conduisez. Je passerai pas mon temps à me dire c'est pas de ma faute, c'est juste la météo. C'est ça.
Je voudrais pas reprendre le slogan de l'autre dans l'Ouest canadien, mais on parle de gros bon sens. Doc Elahoubi,
absolument.
C'est un plaisir.
Ça m'a fait grand plaisir.
Merci beaucoup.
Bonne journée à vous.
Bonne journée.
Docteur Karim Elahoubi, qui est un des membres du Parti conservateur du Québec, qui nous parle du fameux modèle québécois en santé, puis de quelle façon on pourrait le revoir, ce fameux modèle-là. Puis de quelle façon aussi on pourrait aider nos jeunes médecins plutôt que de leur interdire, exemple, d'aller travailler ailleurs, là. Tu voulais m'ajouter quelque chose?
Pendant qu'on parlait puis qu'on faisait les fins finaux, soit pour la Saint-Valentin ou encore qu'on réfléchissait sur la santé, il y a eu un incendie dans le coin de Limoilou. Juste vous dire que c'est terminé, mais c'est un autobus de RTC qui a pris feu là, à l'arrière de cet autobus articulé-là. On a dû pompiers, policiers, paramédics. Bon, tous les services d'urgence se sont rendus au coin du chemin de la Canardière puis de l'avenue Saint-Pascal. Là. Le bus était la proie des flammes puis on a dû justement sortir les gens. La conductrice de l'autobus s'est assurée de l'évacuation. Tout a été fait d'une belle manière, mais ça a saisi quand même les gens dans le secteur puis ça a paralysé une partie de la circulation. C'est terminé.
On vous pousse dans les oreilles en ce vendredi ensoleillé. The Offspring, Make It All Right sur les zones de Boulevard.